DW. Magazine Environnement.
Dix ans après l'accord de Paris, le monde s'éloigne de plus en plus de la limite de 1,5 Celsius de réchauffement climatique. À Belém, au Brésil, la COP30 tente de raviver l'espoir climatique en misant sur la préservation des forêts et l'adaptation des pays les plus vulnérables. Le bassin du Congo, aux côtés de l'Amazonie, se retrouve ainsi au cœur des débats. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosivit Yassou, au micro. On le disait tantôt, 10 ans après l'accord de Paris, l'un des objectifs phares, limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 Celsius, semble aujourd'hui hors d'atteindre. Mais le sommet mondial sur le climat, la COP30, qui se tient à Belém au Brésil, pourrait au moins permettre de limiter la casse climatique. Pour y parvenir, les délégués misent non seulement sur l'adaptation, mais aussi sur la préservation des forêts, véritable bouclier naturel contre le réchauffement. Et en la matière, la République démocratique du Congo entend bien faire entendre sa voix. La ministre congolaise de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo, estime que son pays, abritant une part importante du bassin du Congo, a un rôle crucial à jouer.
Nous voulons que la RDC, qui a 60% des forêts du bassin du Congo, puisse bénéficier de cette reconnaissance, c'est-à-dire avoir les retombées nécessaires du fait de son rôle dans la régulation climatique.
Un point de vue que partage sa collègue du Congo-Brazzaville, Arlette Soudan-Nonolt, également ministre de l'Environnement.
Maintenant, en ce qui concerne l'empreinte carbone, le bassin du Congo, il faut le savoir, en matière de régulation du climat mondial aujourd'hui, est le rempart de l'humanité. Nous sommes sur le plan de la superficie, juste après l'Amazonie. Mais par rapport à la séquestration, au stock de carbone, nous sommes le premier puits de carbone au monde aujourd'hui. Pourquoi ? Nous avons nos forêts, les forêts du bassin du Congo, que vous connaissez très bien, qui séquestrent pas moins de 1,5 milliard de tonnes de CO2. Et nous avons d'un autre côté la récente découverte en 2018 par des grands chercheurs de l'université de Leeds du Royaume-Uni, des grands chercheurs, des grandes universités africaines qui ont mis en lumière et qui ont fait une publication dans la revue Nature des tourbières des bassins du Congo, qu'on appelle en anglais des peatlands. Ces tourbières, à elles seules, sur une superficie, pratiquement superficie d'un pays comme les Pays-Bas, 165 500 km² aujourd'hui, qu'on a découvert en Afrique centrale dans le bassin du Congo, que vous retrouvez au niveau de la RDC, la République démocratique du Congo, et la République du Congo, mon pays, des tourbières qui stockent, accrochez-vous bien, pas moins de 30 milliards de tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de la planète.
Pourtant, l'immense forêt tropicale du bassin du Congo, l'un des plus grands réservoirs de carbone au monde, tout comme l'Amazonie, sont aujourd'hui menacés par la déforestation, l'exploitation minière et les pressions économiques. Pour Arlette Soudan-Nonolt, il est temps de les préserver, de même que les tourbières.
Et donc aujourd'hui, il y a une urgence à les conserver. Parce que la différence entre les tourbières et les forêts se restaurent. Les tourbières sont des écosystèmes naturels qui se stockent du carbone par rapport aux ans. C'est-à-dire, c'est des entreposages de feuillages, de branches et autres, et qui stockent ce dioxyde de carbone. Si ce dioxyde de carbone s'échappe, le GIEC nous dit que nous basculons de 3 à 4 degrés Celsius. Donc, la planète va être invivable. Et nous avons également les ambitions de l'accord de Paris qui nous demandent de maintenir la température de la planète à 1,5 degré Celsius. Mais malheureusement, nous sommes pratiquement devant un fait accompli. On est pratiquement dans le basculement à 2 degrés. Donc, aujourd'hui, le bassin du Congo est ce poumon de régulation mondiale. Le monde respire aujourd'hui à travers les poumons du bassin du Congo que nous sommes. Et donc, lorsque vous me posez la question de savoir qu'est-ce que nous apportons à l'humanité? mais nous apportons simplement la vie sur cette planète Terre au reste du monde. Mais la question aurait été intéressante aussi, quelle est la contrepartie que nous avons? Parce que nous sommes de très bons élèves, vous l'avez compris, de l'atténuation. Nous revoyons notre contribution déterminée au niveau national tous les 5 ans, en conformité avec l'accord de Paris. Elle est révisée, on revoit nos ambitions à la hausse, mais pourtant nous ne sommes pas des émetteurs. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes assez structurés. Et nous avons un fonds fiduciaire, le fonds bleu, pour le bassin du Congo aujourd'hui. Nous avons une commission climat du bassin du Congo qui est présidée par la République du Congo. Et c'est comme cette commission a vu le jour en marge de la COP de Marrakech sur proposition du roi du Maroc.
Les arbres, ce sont les puits de carbone indispensables face à la crise climatique. Et cette année, la forêt est la star de la COP30, mais une star capricieuse. La conférence des Nations Unies sur le climat s'est ouverte le 10 novembre dernier à Belém. ONG, peuples autochtones, petits états insulaires des Caraïbes et du Pacifique, tous appellent à une transition climatique équitable et financée. C'est ce que soutiennent aussi les ONG africaines, d'après Sena Aluka, l'un des responsables de la société civile africaine à la COP30. Et fondateur de l'ONG panafricaine Genoux Volontaires pour l'Environnement, JVE.
Déjà que des personnes, des familles humaines, des sociétés se rencontrent pour échanger, c'est une très très bonne chose. On a vu tout l'émerveillement, toute la mobilisation de la société amazonienne, pas seulement le Brésil, mais tous les pays à côté qui partagent aussi l'Amazonie, le Pérou, le Laos, le Cambodge, etc., qui sont mobilisés. Donc on peut estimer que déjà c'est une bonne chose. Et la société civile africaine et les citoyens africains, ils se sont déplacés en nombre, une trentaine de chefs d'État, dont la moitié venait du continent. C'est une très bonne chose, avec en toit de fond le bassin du Congo, que le président congolais et tous les présidents du bassin ont mis en avant comme une solution à la crise climatique. Donc on estime que oui, déjà qu'on se retrouve pour échanger, c'est une bonne chose. Est-ce que ça va trouver toutes les solutions aux problèmes du climat en Afrique? Peut-être pas, mais c'est déjà un bon début qu'on se soit retrouvé pour échanger et discuter.
Oui, et à la COP de Bakou, les pays du Sud ont jugé insuffisant les 300 milliards de dollars promis pour l'adaptation. Et selon vous, quelle serait une contribution réellement juste et crédible de la part des pays du Nord?
Ils savent déjà ce dont il est question. C'est juste qu'on tourne autour du pot. Ils savent le montant nécessaire dont nous avons besoin pour faire face à la crise climatique. La crise climatique, au fond, la réduction des émissions, on ne va pas y arriver demain. Les voitures doivent circuler, les industries doivent tourner, nous devons encore aller conquérir d'autres planètes et nous devons couper d'autres forêts. Ça, ce développement économique, ce modèle capitaliste, il va continuer, ça c'est clair. Mais le financement pour faire face aux impacts, c'est bien de ça qu'il s'agit. On l'a évalué, l'Afrique l'a évalué, il nous faut minimum 1,3 trillion de dollars. Mais vous allez écouter l'actualité cette semaine. Monsieur Elon Musk, lui seul, c'est combien? C'est 100 milliards, 100 trillions de dollars. Donc Elon Musk, lui seul, sur 10 ans, va avoir 100 fois tout ce que l'Afrique demande pour faire face à la crise climatique dans le monde entier. Et si vous payez les dépenses militaires du monde entier, et nous aurons 3 fois le montant nécessaire pour faire face à la crise climatique. Donc ils savent ce qu'ils doivent faire. Les promesses qu'ils ont eues par le passé n'ont pas abouti. Mais pour une fois qu'on a les 300 trillions, nous allons suivre pour que ça ne devienne pas non plus une promesse vide. Et déjà, les discussions dans le cadre du mécanisme d'action de Belém, qu'on appelle BAM en anglais, vont permettre que l'argent, on puisse savoir d'où l'argent va venir, qui va l'avoir et qui ça va profiter.
Et vous venez de le dire, les pays africains demandent que les financements soient considérés comme une réparation et non comme une aide. Et comment cette revendication peut-elle être défendue concrètement dans les négociations internationales à Belém?
La question de la réparation, donc si on prend tous les torts qui ont été causés à notre continent, que ce soit les esclavages, que ce soit la colonisation, l'impérialisme, tout ça, l'Afrique a toujours demandé 3 choses et la plupart des penseurs l'ont dit. D'abord, il faut reconnaître la chose. Il faut accepter que nous sommes responsables et vous non. Ensuite, il faut réparer et après on va se réconcilier. Donc, nous sommes toujours entre la dimension de la reconnaissance. Or, quand vous lisez les trois conventions de Rio, que ce soit celle de la désertification, de la biodiversité ou du climat, elles sont fondées sur un certain nombre de principes, dont le principe de la responsabilité commune, mais différenciée. Oui, nous sommes tous responsables à des degrés différents, mais vous, beaucoup plus, et vous devez payer beaucoup plus pour les autres. Donc, c'était inscrit déjà dans l'ADN de la Convention. Donc, ce que demande l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous puissions remettre la Convention autour de nos négociations. Parce qu'à un moment donné, on a perdu la Convention, on a perdu même le protocole de Kyoto, on a même perdu récemment même l'accord de Paris. Donc, l'Afrique exige à ce dont nous sommes mis d'accord il y a des années, en 92, qu'on puisse revenir là-dessus. Et donc, la question de la réparation de la dette, qui est juste quelque chose de tout à fait normal, on ne commande pas une faveur, c'est notre devoir parce que les pays sont développés au dépens de nous, notre possibilité. Si aujourd'hui, des jeunes Togolais, Somaliens, Nigériens et Marocains prennent le chemin de la Méditerranée, eh bien, c'est à cause de cette dette historique que le Nord doit au Sud. Si demain, il y a encore inondation à Bamako ou à Maseru ou Lesotho, c'est à cause surtout de cette dette historique. Donc, c'est une question de solidarité, mais une question aussi de droit international, puisque c'est déjà écrit au sein de la Convention.
Mais pendant que les discours s'enchaînent à Belém au Brésil, la planète, elle, continue de se réchauffer et les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Selon une étude de Global Carbon Project menée par 130 scientifiques internationaux, les émissions de dioxyde de carbone issues du charbon, du pétrole et du gaz devraient encore augmenter d'un peu plus de 1% en 2025 par rapport à l'an dernier. Autrement dit, le monde s'éloigne toujours plus de l'objectif de 1,5°C fixé à Paris. La COP30 est un rendez-vous crucial pour rappeler que sans les forêts, il n'y aura pas de climat stable et sans coopération mondiale, pas d'avenir durable. Et c'est la fin de ce nouveau numéro de notre magazine. Merci de nous avoir suivis. Kosivitiasu au micro et restez toujours à l'écoute de la DW.